Monde.
Salut aussi à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent sur Zoom. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous sommes tous dans la joie et le Saint-Esprit est avec nous maintenant. Amen. Je dis que nous sommes dans la joie parce que tout à l'heure, quand on a chanté, j'étais vraiment dans la joie. Je sentais le Saint-Esprit qui est ici. Et avant de continuer, je vais chanter encore. J'aime vraiment cette chanson. J'aime cette chanson parce que chaque fois que le chorale chante cette chanson, je n'ai jamais chanté en français. Je l'ai chanté toujours dans ma langue parce que c'est ça qui vient en premier lieu. Et nous sommes tous confortables, oui, quand nous chantons, quand nous entendons le message dans notre propre langue. Et c'est ça qui est parce qu'il s'est passé le jour de Pentecôte. Vous vous souvenez du jour de Pentecôte? Les disciples étaient dans une salle, nous allons voir tout à l'heure. Et puis, tout le monde chantait, entendait que sa propre langue était en train d'être parlée par les disciples. Et ils s'étonnaient. Mais ces gens, ce sont des juifs. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils parlent notre langue? Je suppose que si j'avais été là, ils auraient entendu ma langue nationale qui est le Rwanda être chantée. Bon, donc c'est ça le message de Pentecôte. Donc, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est de dire l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Parce que c'est ça, justement, que c'est ça le message de Pentecôte, c'est de voir le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il fait dans ma vie chaque jour. Et nous allons voir tout à l'heure. Et je voudrais aussi vous dire que en préparant ce message, je n'ai pas contacté Parfait quand ils préparent la chanson, parce que la chanson qu'ils ont chantée tout à l'heure, c'était ce message. Voir le Seigneur en puissance, le Saint-Esprit vivant sur vous, et vous serez mes témoins partout dans le monde. Vous l'avez chanté, et j'étais aussi très content de voir que nous sommes tous dans la même ambiance, l'ambiance du Saint-Esprit. Amen. Pentecôte. Le mot Pentecôte, en fait, je crois que tout le monde le sait, mais ça veut dire Pentecôte, ça veut dire 50, 50 ou 50e. Pourquoi? Parce que Pentecôte suivait 50 jours après Pâques. Mais Pentecôte aussi, chez les Juifs, c'était aussi, ça existait. Hein? Ça existait parce qu'il y avait une fête chez les Juifs qui se faisait 50 jours après Pâques, parce qu'ils avaient aussi les Pâques. Et cette fête existait. Et que maintenant, après l'ascension de Jésus, donc après Pâques, quand Jésus est venu, quand il est mort, quand il est ressuscité, ça c'était Pâques. Maintenant, nous, chrétiens, nous faisons la Pâque 55, le 50e jour. Mais il faut dire aussi que ça existait à l'époque. Pour nous, chrétiens, et c'est ça qui nous intéresse, Pentecôte, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que chaque année nous fêtons Pentecôte? Et c'est ça qui est. Quand nous sommes dit, ah, dimanche c'est la Pentecôte, qu'est-ce que vous avez eu dans votre tête? Vous savez que c'est Pentecôte. Est-ce que c'est parce que chaque année, après Pâques, on doit fêter Pentecôte? Non. Pentecôte, ça a un sens spécial pour nous, pour les chrétiens, et c'est ça que nous allons voir. Qu'est-ce que nous célébrons chaque année alors? Pentecôte, pour nous chrétiens, nous célébrons un événement qui a eu lieu après l'ascension de Jésus, après sa mort et son ascension, c'est la venue du Saint-Esprit et la promesse du salut universel. Parce que Jésus, n'oublions pas quand il est mort, il est ressuscité, il est allé se montrer d'abord à ses disciples. Vous vous souvenez de la situation dans laquelle ils se trouvaient? Ils avaient peur, ils avaient été malmenés, ils croyaient qu'eux aussi on allait les prendre, les chasser, venir les tuer, et ils se cachaient, tout le monde avait peur. Mais Jésus, après sa résurrection, pendant 40 jours, il est allé les rencontrer, soit individuellement, soit en groupe, pour leur assurer. D'abord pour leur montrer que c'est lui qui est ressuscité. Parce que même parmi les apôtres, il y en a qui doutaient. Il a montré les cicatrices, il a parlé des choses qu'il connaissait. Maintenant, il savait que lui, c'est lui-même, Jésus, qui est ressuscité. Ça, c'est un. Mais aussi, il s'est montré à ses disciples pour j'allais dire, les calmer, pour lui donner une promesse, pour lui dire, oui, je dois m'en aller, je dois aller chez mon père, mais attention, je ne vous oublie pas. Mes chers amis, Dieu ne nous oublie pas. Même dans les difficultés que nous rencontrons chaque jour, Dieu ne nous oublie pas. Il pense à nous. Et c'est pour cela que Dieu leur dit, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Parce que certains disciples voulaient lui dire, ah, nous avons de la chance. On a voulu te tuer. Maintenant, tu reviens. Donc, tu restes avec nous. Mais il dit, non, 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 non. Je dois m'en aller. Ma mission sur terre est terminée. Je dois retrouver mon père. Et il faut que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, c'est avantageux pour vous. Parce que je vais vous envoyer au Saint-Esprit. Et si je reste ici, on n'est pas au Saint-Esprit. Et ça, c'est le message que nous devons avoir maintenant, c'est que la venue du Saint-Esprit est la promesse du salut public. Donc, recevant la force du Saint-Esprit, les apôtres sont investis d'une nouvelle mission, celle de témoigner de la vie et de l'enseignement sans crainte. Je souligne le mot crainte justement parce que c'était dans une période où tout le monde avait peur et ils étaient malmenés. Donc, quand nous célébrons Pâques, c'est aussi l'accomplissement, non seulement de la promesse qu'a faite Jésus à ses disciples lors de son ascension, mais aussi celui de la promesse du salut universel. Alors, son Fils aux humains, Dieu manifeste le signe d'une alliance nouvelle avec son peuple. Quand nous parlons du salut public, nous allons voir tout à l'heure montrer que Jésus ou Dieu a donné un message à ses apôtres en disant, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, donc un consolateur. En fait, il a envoyé à eux, mais il lui a donné une mission. C'est plutôt que dans le message, il dit, vous serez mes témoins. Oui, je vais vous envoyer une force, une puissance, mais ce n'est pas une force pour que vous soyez fort, pour vous défendre, pour faire n'importe quoi. C'est une puissance, c'est une force pour faire quelque chose qui vous permet d'être mes témoins, qui vous permet de travailler pour moi. Et vous le ferez à Jérusalem où vous habitez, vous le ferez dans les villes autour de vous. Mais cette mission est tellement grande qu'il faut étendre sur tous les pays, c'est sur le monde entier. Et c'est ça la mission qu'il a donnée à ses disciples. Et c'est ça, cette mission qu'il donne à nous aussi, parce que nous sommes ses disciples. Vous serez mes témoins. Ça veut dire, vous allez parler de moi. Vous allez dire aux gens ce que j'ai fait, parce que vous avez été toujours avec moi toute votre vie. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes des témoins oculaires. Et vous le ferez partout autour de vous et partout dans le monde. Et nous sommes contents maintenant, en 2025, que cette mission de Jésus est en train d'être accomplie. Et parce que quand vous voyez l'extension de l'évangile dans le monde entier, ça va. Je ne peux pas dire que c'est dans tous les pays, mais de plus en plus de pays ont cette information que Jésus a existé, que Dieu est là et que Dieu les aime. Et que quand on voit aussi dans le nombre de comment la Bible, qui est le message par excellence de Dieu, est traduit dans presque 200 langues. Même dans la petite langue de chez vous, vous allez trouver une Bible traduite dans cette langue. Et ça continue. Et quant au le combat que les gens ont mené pour traduire la Bible ou pour imprimer la Bible, il y en a même qui ont été tués à cause de ce travail. Donc, tout ceci, c'est fait par le Saint-Esprit. La question qu'on se pose alors, qu'est-ce qui s'est-il passé exactement le jour de Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Nous l'avons lu et ce qu'on sait, c'est que le chapitre des Actes des Apôtres, en fait, il est connu de beaucoup, pas beaucoup, mais j'aime ce chapitre 2 des Actes des Apôtres parce que ça nous décrit exactement ce qui s'est passé, tous les événements qui se sont passés. Et vous allez voir qu'il y a eu une sorte de révolution dans les événements qui se sont passés. Donc, quand on lit dans ces Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 8, on ne va pas le lire maintenant, mais je vous fais un résumé. C'est que, parce que je l'ai lu, C'est Jésus qui se montre à ses disciples avant de l'ascension et qui lui promet de les envoyer le Saint-Esprit. Mais ici, au chapitre 1, je souligne donc son verset, chapitre 1, verset 8, en fait, où Jésus justement fait son message que il s'en va, mais que le message c'est que je ne vous laisse pas comme orphelin, du sang quelque part. Je vais vous envoyer un consolateur, je vais vous envoyer quelqu'un qui va me qui sera avec vous tous les jours pour vous renforcer. Nous verrons tout à l'heure dans les actions du Saint-Esprit que le Saint-Esprit est venu pour nous appuyer, pour nous assister, pour nous accompagner dans notre vie de chaque jour, dans chaque acte que nous faisons, le Saint-Esprit est là. Mais quand nous voyons au chapitre 2, le verset 1 à 4, parfait, je te demande de lire. Chapitre 2, verset 1 à 4, nous verrons, c'est ça, je peux dire sans risque de me tromper, que dans beaucoup d'églises dans le monde aujourd'hui, ce paragraphe a été lu. Parce que c'est ça, justement, le Saint-Esprit. Acte 2, verset 1 à 4.
Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen.
Amen. Donc, ça aussi, nous l'avons vu dans les chansons, dans les chants que nous avons faits. N'oubliez pas que Jésus, avant de l'ascension, il avait dit, je vous en prie, pour le moment, ne vous dispersez pas, parce qu'il y a un danger, c'est le danger des dieux. Restez ensemble à Jérusalem, je m'en vais, je vais vous envoyer une puissance, je vais vous envoyer une protection, et restez ensemble. C'est pour cela que nous disons que nous étions tous ensemble, nous étions tous ensemble quand l'événement est arrivé. Ceci montre quoi? Ceci montre que le fait aussi d'être tous ensemble, d'être réunis, d'être dans une église comme celle-ci, c'est très important parce que le Saint-Esprit nous protège, le Saint-Esprit est avec nous. Nous l'avons vu tout à l'heure quand nous étions en train de chanter ensemble. Et c'est aussi notre promesse que Dieu nous a donnée. Quand deux ou plusieurs personnes ensemble se mettront ensemble pour parler, pour prier, je serai avec eux. Et le mot tous ensemble, alors, ça a toute son importance. Mais aussi, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la salle. Ils étaient assis. Donc, ça veut dire qu'en événement, ils étaient ensemble, ils ne savaient pas. Dieu, ils n'avaient pas de rendez-vous avec Jésus pour qu'ils sachent qu'à telle heure, le Saint-Esprit va venir. Tout à coup, il y a quelque chose qui arrive, il y a le Saint-Esprit qui vient pour montrer que quand le Saint-Esprit entre dans votre cœur, quand le Saint-Esprit entre dans votre vie, ça ne passe pas inaperçu. Et là, je voudrais vous rappeler ce que notre ami Ghislain dit. Il y a une phrase qu'il dit tout le temps quand il est ici, et je sais qu'il dit « J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit pour aimer quelqu'un. » Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. C'était Dieu. Pour aimer quelqu'un, ça veut dire que tu le connais. Et quand Justin dit « J'aime le Saint-Esprit », je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il change. Il change de comportement, il change de forme pour montrer qu'il y a cette forme, cette conviction que le Saint-Esprit est dans son cœur, qu'est-ce que le Saint-Esprit le fait agir. J'aurais aimé que nous soyons tous comme lui, devant le Saint-Esprit, de savoir que le Saint-Esprit est tout pour nous, de savoir que le Saint-Esprit peut tout nous faire. Et c'est très important, quand on parle du Saint-Esprit, d'avoir aussi cette confiance. Nous voulons que dans les armes que nous devons avoir dans la vie, nous devons avoir aussi avoir la foi, avoir la confiance que nous devons tout à cause du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous équipe. Et je continue ce que Fadi dit. Semblables à des lignes de feu, de la parole séparées les unes des autres et s'opposèrent sur chacun d'eux. Ici, on parle de langue. De langue et du feu. Pourquoi des langues? Des langues parce qu'une langue, c'est une voie de communication. Si vous parlez la même langue que quelqu'un d'autre, vous avez tendance à vous assembler avec lui, à communiquer avec lui. Une langue, c'est un moyen de communication. Donc, ceci montre quoi? Nous avons parlé que dans le, nous avons dit que dans le, l'importance de la Pentecôte, il y a aussi la notion de l'Église universelle, la notion de salut universel. Maintenant que la langue, la barrière de langue disparaît, les gens peuvent communiquer et que même on peut parler quelqu'un qui n'est pas de sa nationalité ou de sa culture. Donc c'est l'universalité de la, du salut qui vient. Et de langue de feu, le feu aussi a aussi lui donné d'autres signes. C'est parce que le feu a deux sens aussi. Le feu peut brûler, détruire, mais le feu aussi renfort, donc ça chauffe, ça réchauffe. Je ne sais pas si vous avez assisté à certains cultes de certaines églises de Pentecôte. Ils aiment utiliser ce mot feu, du feu, du fire, pour montrer que ça chauffe, ça donne de la force et ça donne de la puissance. La suite, vous la connaissez, c'est que des gens se sont posé la question comment ils parlaient, ses disciples parlaient cette langue, et que, alors que c'était des juifs qui n'avaient jamais voyagé pour connaître une langue. Donc ça montre ici cet événement de Pentecôte. Des gens sont assis ensemble. À ce moment-là, c'était 120 disciples, ils étaient assis ensemble. Et puis, le Saint-Esprit vient et ça fait ces effets que nous avons vus. Quand nous continuons à lire, nos actes 2, nous voyons ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont étonnés de voir que les apôtres, Pierre et ses amis, étaient en train de parler de langue. Et puis, ils se posaient des questions. Et ils ont cru que les disciples étaient sous. Parce que vous voyez que vraiment, le comportement était anormal. Tout allait parfait, parler de gens normaux ou de gens anormaux. Mais, comme je disais, quand vous avez le Saint-Esprit, votre réaction peut paraître anormale aux gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et puis, l'autre chose qu'ils ont vue, c'est que, un autre événement, c'est que Pierre, que nous connaissons, Pierre, même qui a eu peur, qui a eu honte de témoigner, plutôt d'accepter qu'il connaît Jésus, même devant une petite servante. Pierre, qui n'a jamais osé approcher Jésus quand on a mené la crucifixion, Pierre, qui avait peur qu'on sache même qu'il connaît Jésus, c'est maintenant Pierre qui change. Mais ce n'est pas lui seul, c'est Pierre et tous les apôtres qui ont changé à cause du Saint-Esprit. Et quand Jésus dit « Je vous donne de la puissance », c'est justement pour que cette réaction de transformation puisse se faire en nous. De ne pas dire « Ah, si je fais ça, peut-être on va me tuer. Si je fais ça, on va me mettre en prison. » Donc, ce courage qui est généré par le Saint-Esprit. Alors, Pierre se lève. Et ailleurs, on dit que Pierre se lève et parle avec assurance aux gens qui étaient là. Et il commence à faire sa première prédication. Et dans cette prédication, il dit beaucoup de choses. Mais entre autres, il accuse directement les dirigeants de l'époque, les autorités. Vous, juifs, ce Jésus-là qui a tout fait pour vous, qui a guéri vos malades, qui vous a donné à manger, qui a fait beaucoup de bonnes choses pour vous, c'est vous, juifs, qu'il avait tué. Mais votre travail était vain. Vous l'avez tué, mais il est ressuscité. Il est ressuscité et maintenant, c'est lui-même qui est en train de travailler parce que le Saint-Esprit a été envoyé par lui-même. Bon. Je ne sais pas si vous comprenez ce courage de Pierre et des autres devant des gens qui avaient la possibilité de le mettre en prison et de le tuer encore. Mais Pierre s'en foutait. Il s'en foutait parce qu'il avait le Saint-Esprit. Il s'en foutait parce qu'il savait que la vie physique n'a aucune importance. Il s'en foutait parce qu'il savait qu'il était en train de faire la mission que son maître, que Jésus lui avait demandé de faire. Tout ceci, il a fait, non pas parce qu'il est Pierre, il l'a fait parce que il avait quelque chose qui a changé, parce qu'il avait le Saint-Esprit qui est venu, il avait le Saint-Esprit qui a donné une autre dimension, parce que quand le Saint-Esprit nous visite, nous changeons, nous sommes transformés, nous devenons une autre créature, nous réagissons différemment. C'est pour cela que les gens peuvent dire que nous sommes anormaux, parce que nous ne sommes plus, ou nous n'agissons plus comme nous le faisions avant d'être visité par le Saint-Esprit. Et après sa prédication, nous sommes au verset 37, et après sa prédication, il y a des gens qui étaient là, ils sont tellement, ils ont pris son message, ils ont compris le message, et ça a fait quelque chose dans leur cœur. Ils ont dit, ah, tout ce que vous avez dit, Pierre, nous avons compris. Mais nous, alors, que devons-nous faire? Hein? La parole nous dit que la parole les a transformés, les a pénétrés dans le cœur, et il pose la question à Pierre, frère, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Alors, donc ça montre, ceci montre une transformation interne des gens qui ont écouté le message à cause du Saint-Esprit. Et alors, verset 38 à 41, il y a la réponse de Pierre qui dit, ce que vous devez faire, c'est facile. D'abord, repentez-vous. C'est très important. Repentez-vous parce que avec le péché, le Saint-Esprit ne pourra pas être avec vous. Repentez-vous. Deuxième chose, si vous vous repentez, recevez le baptême. Recevez le baptême au nom de Jésus. C'est ça qu'il dit. Ça veut dire au nom de Jésus, au nom de Dieu. Et quand, si vous vous repentez, si vous avez le baptême, alors, ça c'est la conséquence, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alors, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce que les gens ont fait à ce moment-là. Donc, ils se sont repentis et ils ont été baptisés. Et la Bible nous dit que seulement ce jour-là, il y a eu au moins 3 000 personnes et qui ont été converties et qui ont été baptisées. C'est la première fois, en tout cas dans l'histoire, qu'on est un si grand nombre de convictions et dans l'Église. Et quand nous voyons ça, une Église qui augmente de 3 000 personnes en un jour, ça c'est le début de l'Église. Parce que le nombre commence à augmenter. Et nous, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, je vous vraiment recommande de lire ce livre parce que nous, au niveau de notre cellule Montréal Nord, nous avons lu ce livre. Nous n'avons pas encore terminé, mais nous l'avons analysé A à Z. Oui, ce livre des Apôtres est aussi appelé le livre du Saint-Esprit. Ce sont les actes du Saint-Esprit. Quand vous lisez ce livre, Actes des Apôtres, vous ne trouverez aucun chapitre où le mot Saint-Esprit n'est pas noté. Il y a toujours quelque part dans son livre, dans chaque chapitre, le mot Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi le livre des actes du Saint-Esprit. Autre chose que nous voyons, ça donc, il y a eu ce baptême, beaucoup, le nombre augmente, c'est le début de ce qu'on appelle une église. Mais aussi, nous voyons qu'à la fin de ce chapitre 2, qu'on nous dit la vie sociale des premiers chrétiens, que ces premiers chrétiens, maintenant, vivaient ensemble et dans commun accord, ils partageaient tout, la prière, la nourriture, ils vendaient les biens pour venir vivre ensemble. Ça, c'est le début de l'Église, et avec les gens qui se mettent ensemble et qui partagent tout. Allez, on va aller vite, prochaine diapositive. Oui, ceci, j'ai cité sur ça parce que c'est sur la base même donc de Pentecôte, donc de ce que le Saint-Esprit peut faire. Mais on peut voir que dans notre vie maintenant de croyant, on pourrait dire que ce que je viens de dire Peut-être ça appartient à l'histoire. Mais maintenant, pour nous, c'est quoi le Saint-Esprit? Quels sont les rôles du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours? Le Saint-Esprit affirme que le Saint-Esprit est d'une grande importance dans la vie du croyant. Plutôt, c'est Jésus qui l'appelle. Parce que, comme nous le disons dans Jean 16, verset 7, Jésus lui dit, « Cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » J'avais déjà fait allusion à ce verset, mais ceci pour vous montrer que même Jésus lui-même, qui est Dieu, reconnaît l'importance du Saint-Esprit et qu'il sait que ce qui est bon pour nous, c'est que le Saint-Esprit puisse venir vivre avec nous. Mais le deuxième rôle du Saint-Esprit, c'est d'équiper. Équiper pour la mission. Comme nous l'avons vu à l'acte 2, verset 8, vous recevrez la puissance, car le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous équipe, le Saint-Esprit nous arme, le Saint-Esprit nous donne des moyens pour faire notre mission. Et notre mission, c'est quoi en tant que disciples, parce que nous sommes des disciples. Notre mission est de partager la parole de Dieu et d'évangélisation et de parler au monde qui ne connaît pas encore Jésus, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il promet de faire pour dans notre vie. Prochaine diapositive. Notre mission, c'est du Saint-Esprit, c'est de conduire le croyant. Nous le voyons à Jean 16, verset 13, qui dit ceci, « Car le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. » Monsieur de conduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit vient pour nous conduire, il vient pour nous montrer le chemin, il vient pour nous accompagner, pour nous montrer la direction dans laquelle nous devons aller. Le quatrième rôle, nous le voyons, nous l'avons dans le Romains 8, verset 16, où le rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage. Parce que Paul dit dans Romains 8, verset 16, que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le Saint-Esprit avec S majuscule et notre esprit avec petit s, parce que notre esprit, ça veut dire nous, ça veut dire le moi humain, ça veut dire que c'est ma personne, et que le Saint-Esprit donne témoignage à moi, ça veut dire qu'il me parle, ça veut dire qu'il me montre l'orientation, ça veut dire qu'il est toujours à côté de moi pour me chuchoter quelque chose que je dois faire. Prochaine diapositive. L'autre rôle du Saint-Esprit, c'est de nous soutenir dans les faiblesses. Nous soutenir dans les faiblesses, c'est parce que, en tant qu'humain, nous avons la faiblesse humaine. En tant qu'humain, nous sommes toujours dans des difficultés. Mais nous devons chaque fois dire que, dans mes faiblesses, ce n'est pas moi qui vais sortir. C'est le Saint-Esprit qui doit m'aider. Ces faiblesses, Romains 18 dit ceci, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Donc, nous avons vu tout à l'heure que le Saint-Esprit est à côté de nous, il nous chuchote, il est dans notre esprit, notre personne. Mais ici aussi, il nous dit, dans vos faiblesses, quelquefois, quand vous faites des prières, vous ne savez pas exactement ce qu'il faut demander. Et le Saint-Esprit est à côté, est toujours dans toi pour te dire, pour orienter tes prières, pour te dire qu'est-ce que tu dois dire à ton Dieu, parce qu'il te donne des conseils. Et c'est vrai que c'est très important de le savoir. L'autre et l'avant-dernier rôle, de ce que j'ai noté, parce qu'il y a beaucoup d'autres rôles que je n'ai pas noté, bien sûr, c'est de rappeler et d'enseigner. Et c'est ce que nous voyons dans Jean 14, verset 26, qui nous dit que, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand nous disons que le Saint-Esprit est notre accompagnateur, ça veut dire que dans chaque chose que nous faisons, il est là. Et il va me rappeler même des choses que j'ai oubliées parce qu'il est là, parce qu'il veille à ma vie, parce qu'il veille à mon bonheur. Et il va même m'enseigner ce que je ne connais pas. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ce rôle, parce que en près du Saint-Esprit, nous voyons, n'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est Dieu, parce qu'il fait partie de la Trinité. Et Dieu qui se met à notre service, qui nous accompagne chaque jour et qui se préoccupe de chaque difficulté que nous rencontrons, c'est une chance que nous avons de l'avoir. Et la prochaine diapositive, l'autre rôle que nous avons, et c'est le dernier que j'ai préparé ici, c'est de préparer le croyant pour le retour du Christ. Et ça, c'est le rôle le plus important. C'est le rôle le plus important parce que nous avons vu que ce qu'il fait dans notre vie, dans notre cheminement, de nous orienter, de montrer au passé. Mais le but ultime, c'est là. C'est de nous préparer pour savoir qu'un jour, nous devons arriver chez le Christ. Un jour, nous devons arriver dans le royaume des cieux. Un jour, et nous montrer que tout ce que je suis en train de faire pour vous, c'est de vous montrer vos chemins pour que vous puissiez arriver à destination. Et c'est ça que nous voyons dans l'Apocalypse 22, verset 17, qui nous dit que et l'esprit et l'épouse, comprenez l'épouse, pas l'église. Donc, et l'esprit et l'église disent, viens. Et que celui qui entend ces paroles dise, viens. Et que celui qui a soif vienne boire. Et que celui qui veut de l'eau, de la vie, le reçoive gratuitement. C'est peut-être difficile de comprendre ces mots parce que c'est à la fin d'Apocalypse. Et l'Apocalypse, vous savez que le langage qu'on utilise là-bas n'est pas toujours facile à comprendre. Mais ceci vous montre que le Saint-Esprit, sa mission, c'est de nous accompagner pendant cette vie ici, mais jusqu'à la fin où nous serons appelés à être au royaume des cieux avec notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je vais très rapidement, je les ai mis pour que nous puissions fixer nos idées, de se dire que oui, nous avons le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit nous épaule dans notre vie, mais le Saint-Esprit, il y a aussi des dons qu'il nous donne. Pourquoi des dons? Le Saint-Esprit nous aime tellement qu'il nous arme, il nous équipe, il nous arme en différentes sortes de dons. Et c'est ça que nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 12. Et vous savez ce chapitre, on ne va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps, qui nous montrait qu'il existe un seul esprit, le même esprit, et cet esprit, c'est lui qui nous donne tout ce qu'il veut nous donner. Il nous donne ça gracieusement, gratuitement, et que ces dons qu'il nous donne ne nous appartiennent pas à nous-mêmes. C'est donc qu'il nous donne, c'est pour la multitude, c'est pour l'ensemble, c'est pour aider les autres, Seigneur. Et il nous même dit que c'est donc que nous avons, nous ne devons pas nous devons sentir que nous sommes très, nous glorifier devant ces dons, parce que ce n'est pas de notre effort, c'est donné gracieusement. Et ces dons, c'est le don de la sagesse, le don de la connaissance, le discernement des esprits, interprétation des langues, don de guérison, don d'opérer des miracles, don de la foi, don de prophétie et diverses des langues. Je vais entrer dans les détails, mais je vous dis que si, par exemple, vous avez le don de faire des miracles, n'allez crier pas partout que vous êtes extraordinaire, parce que ce n'est pas vous qui le faites. C'est Dieu qui le fait à travers vous. C'est le Saint-Esprit qui le fait à travers vous. Et c'est ça que Paul dit. Paul dit qu'il y a diversité de dons, mais que c'est le seul Seigneur, c'est le même Seigneur qui donne ses dons. Mais Je vous dis que c'est équipé, mais aussi c'est une arme que vous nous donne parce que dans notre vie de tous les jours, donc ça nous permet aussi de pouvoir savoir comment réagir parce que quand nous sommes dans des situations spécifiques. Diapositive, je vais vite parce que le temps avance. Je termine par les fruits du Saint-Esprit. Ça aussi, vous les connaissez. Mais pourquoi je l'ai mis? J'ai mis les fruits parce que les fruits, c'est une production. J'ai mis ce chapitre parce que si nous sommes avec le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit nous accompagne tous les jours, si nous acceptons d'être guidés par lui, nous avons aussi un devoir à faire. Nous avons aussi une façon de nous comporter. Nous avons aussi, nous pouvons pas nous comporter n'importe comment, alors que nous sommes sous la direction, sous l'emprise du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous oblige de nous conduire d'une certaine façon, parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous sommes spéciaux. Et c'est ça, ce fruit, ça veut dire quoi? Un fruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers nous, on devrait savoir que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons vu tout à l'heure que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne paraît pas normal vis-à-vis des autres parce qu'ils se comportent différemment. Donc, cette façon de nous comporter différemment devrait être une façon positive qui va influencer les autres pour qu'ils puissent dire « Ah, si telle personne a le Saint-Esprit et qu'il se comporte comme ceci, c'est, moi aussi je devrais l'imiter. Moi aussi je dois changer pour être comme lui. » Et c'est donc, oui, et c'est donc, je le passe rapidement, parce que je sais que vous le connaissez aussi, mais c'est l'amour. Et quand nous parlons d'amour, vous savez que la Bible nous dit que de toutes les qualités que nous pouvons avoir, l'amour, c'est la qualité la plus importante de tout ce que nous pouvons avoir. Et ce qui est l'amour, c'est cet amour inconditionnel. Et ces derniers temps, nous avons parlé de l'amour assez profondément pour dire que l'amour que nous devons avoir, ce n'est pas l'amour des autres. Ce n'est pas l'amour de notre époux, de notre épouse, de mes enfants, de mes frères. C'est l'amour de tout le monde. C'est l'amour même de mon ennemi. C'est l'amour même de celui qui me persécute. C'est ça que, même si c'est difficile, c'est ça que Dieu nous demande. Et dans la joie, la paix, la patience, la chasteté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la modestie. Ce que j'ai mis entre parenthèses, ce sont aussi les mêmes choses, mais qu'on voit aussi dans certaines d'autres publications pour expliquer ce fruit. Donc, ça veut dire que si je suis sous le Saint-Esprit, si j'accepte que le Saint-Esprit doit me guider, je dois avoir cet amour. Je dois avoir cette joie profonde, indépendamment des difficultés que je rencontre. Je dois avoir cette tranquillité intérieure à moi-même. Je dois avoir cette patience que beaucoup d'autres personnes n'ont pas. Je dois avoir cette relation saine avec d'autres personnes. Je dois avoir cette volonté de bien faire. Je dois avoir cette confiance mutuelle quand je parle à mes frères, aux autres. Et mon comportement de douceur, de calme, ça doit être visible. Un fruit doit être visible. Et je dois aussi cette humilité, mais l'humilité sincère. Ça, c'est sur les fruits. Ça, c'est quoi? Les fruits, ça veut dire ce qu'on voit. Ça veut aussi, dans le thème, d'autres thèmes, on dit des critères d'évaluation. De savoir, parmi des gens qui sont ici, qui est-ce qui a le Saint-Esprit? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Et pour nous dire, je peux voir ces critères d'évaluation. Je termine avec la dernière diapositive qui vous dit ceci. Le Saint-Esprit est avant tout Dieu. N'oubliez pas ça. Le Saint-Esprit, des fois, quand on voit dans nos prières, quand on voit dans nos pratiques, on a tendance à l'oublier. On a tendance à dire, il y a Dieu, son Fils, Dieu, son Fils. Mais la Trinité, c'est trois. C'est trois personnes en un. Donc, c'est un Dieu. Donc, si est Dieu, ça veut dire que c'est un Dieu, il est omnipotent. Ça veut dire que Dieu est tout-puissant. Le Saint-Esprit est tout-puissant. Le Saint-Esprit, il connaît tout. Le Saint-Esprit, il est partout parce que c'est un Dieu. Et nous avons cette chance d'avoir cette personne, en tout cas cette personnalité qui connaît tout, qui sait tout, qui connaît tout, qui peut tout et qui est chargé de nous protéger. Quelle protection, quelle chance avons-nous d'avoir son protecteur. Et le Saint-Esprit aussi, il est la présence même de Dieu en action, incitant à la croissance spirituelle, à la victoire sur le péché et à une transformation intérieure pour essayer de devenir comme Jésus. Oui, le Saint-Esprit nous accompagne, mais n'oubliez pas que notre chemin de chrétien, c'est un chrétien de sainteté. Et l'Église méthodiste, l'Église en général, en fait, souligne ce mot sainteté, de voir que nous devons tout faire, nous devons imiter Jésus dans tout ce que nous faisons. C'est pour cela que dans les actions que le Saint-Esprit fait, ça va s'associer à la sainteté. Le Saint-Esprit est ce pouvoir qui permet aux chrétiens de changer, je souligne le mot changer, de changer et de devenir des personnes transformées, de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu et de produire des fruits de l'Esprit dans leur vie quotidienne. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous permettre de changer. Changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre façon de vivre sans le Saint-Esprit doit changer. Nous devons avoir une autre forme. Nous devons, on appelle ça une force transformatrice de la personne pour que nous puissions continuer notre cheminement comme nous l'avons vu vers le royaume des cieux. Dernier mot de conclusion, c'est maintenant le moment. C'est le moment de demander à Dieu sa grâce, demander à Dieu comme il a promis à tout le monde. Nous avons vu que le salut est universel. Demandons à Dieu de nous faire ce qu'il a fait aux premiers disciples, de nous envoyer cette force, de nous envoyer cette force transformatrice, de nous envoyer cette puissance pour que nous puissions sortir de la routine de tous les jours, de la peur de tous les jours, pour que nous puissions sortir de notre coquille pour faire quelque chose de différemment, pour que nous puissions montrer aux gens que nous sommes différents, que nous sommes chrétiens, pour que nous puissions avoir cette force d'être des témoins, de vrais témoins, pour témoigner de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu depuis notre enfance jusqu'à maintenant, de ce que nous avons vu dans nos églises, pour que nous puissions changer, non seulement nous-mêmes, mais aussi faire changer le monde. Et comme nous l'avons vu depuis le début du culte, notre Église de Saint-Henri a cette mission de montrer cette force du Saint-Esprit autour de nous, pour que les gens puissent changer, pour que les gens puissent savoir que oui, cette vie dans laquelle nous sommes peut changer et que nous pouvons revêtir le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire de bons disciples. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire. Voilà ce que j'essaie de vous montrer dans cette prédication, de montrer que le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Le Saint-Esprit a une mission envers nous. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le signe d'amour profond de Dieu, ce Dieu qui non seulement donne son Fils pour mourir à notre place, mais plus après la mort, nous donne le Saint-Esprit pour nous accompagner dans notre vie de tous les jours. Il veut que nous puissions lui obéir et que nous arrivions à destination. C'est ça ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions arriver à la fin dans son royaume. Et c'est ça que fait le Saint-Esprit. Voilà. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci. Merci pour ton message. Merci pour nous rappeler que tu nous aimes. Merci pour nous rappeler que tu fais tout pour que nous puissions être sauvés, Seigneur. Oui, nous sommes au jour de Pentecôte. Nous rappelons que, Seigneur, tu t'es montré comme notre, que tu viens nous aider et que tu viens nous montrer le chemin, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que de continuer à envoyer ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit puisse rester avec nous, puisse transformer nos cœurs, puisse, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce que nous voulons, c'est de changer. Et c'est comme ça que tu nous demandes, pour que nous puissions, Seigneur, arriver à goûter le plaisir de ton royaume. Merci, Seigneur, de nous avoir montré que tu es toujours avec nous et que ton Saint-Esprit est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Nous avons prié notre Jésus-Christ. Amen.